بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتم لا تخرجكم إيه تخرجوا كيسوف. سنة عبد الله بن عمر لمسجد الله صلى الله عليه وسلم دي لا تخرجوا كيفون بيرير. تخوا كيسوف، تخوا كيفاس لبشي، تخوا كيلفان دغري. التخوا كيفون بيرير سون لافاريس على لكل نبي. Une passion qu'on suit et l'admiration de soi-même. Quant à celles qui sauvent, ce sont la justice lors de la colère et de la satisfaction. L'économie pendant la pauvreté, la richesse, la crainte d'Allah en secret et en public. Quant à celles qui effacent les péchés, le fait d'attendre une prière après une prière, faire soigneusement ses ablutions malgré la gêne et aller vers le groupe. Quant aux trois élévatrices en degré, offrir des repas, répandre le salut et prier la nuit pendant que les gens dorment. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de ceux qui sauvent. Il parle des trois qui sauvent juste après les trois qui font périr, de façon à montrer que ces trois qui sauvent, elles sauvent en fait des trois qui font périr. La crainte d'Allah vient à l'opposé du fait de suivre les passions. La crainte d'Allah sauve de l'attachement aux passions. Allah a dit, quant à celui qui craint le moment où il se retrouvera devant son Seigneur, le paradis sera son refuge. L'économie juste pendant la richesse et la pauvreté vient à l'opposé de la passion qu'on suit et à laquelle on obéit. La passion à laquelle on obéit fait périr. Et son remède, c'est d'être économe de manière équilibrée lors de la richesse et la pauvreté. C'est-à-dire que l'individu est juste. Il prend des précautions avec ce qu'il possède sans pour autant abuser dans la dépense ou l'avarice. La parole de vérité pendant la colère et la satisfaction vient à l'opposé de l'admiration de soi-même. Ô musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander à son Seigneur ces trois qui sauvent. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, ô mon Seigneur, je te demande ta crainte pendant la colère et la satisfaction. Je te demande la parole de vérité pendant la colère et la satisfaction, et je te demande d'être économe pendant la pauvreté et ainsi que la richesse. Nous avons tant besoin de répéter cette invocation à chaque instant de notre vie. Nous avons tant besoin de nous rappeler les uns les autres cette invocation. La satisfaction. La première de ces choses qui sauvent, c'est la justice lors de la colère et la satisfaction. L'individu est juste à ces deux moments. Son cœur deviendra l'outil de mesure juste et équilibrée pour la vérité. La colère ne le provoquera point. Sa parole ne sera que vérité et il n'y aura pas de place pour son âme. Cela est malheureusement rare, puisque la plupart des gens, lorsqu'ils se mettent en colère, ils ne font plus attention à leurs gestes et paroles. La colère est finalement une révolte sauvage qui fait perdre à l'individu sa raison. Certains décrivent la colère comme étant une petite folie et un chemin qui détruit la personnalité, les foyers et divise les groupes. L'individu, de par son caractère, peut être juste pendant qu'il est satisfait. Mais il est beaucoup plus difficile pour lui de l'être lors de sa colère. La justice, pendant la colère, a besoin d'une foi inébranlable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit, « La justice pendant la colère et la satisfaction fait partie de ceux qui sauvent. » Une justice complète en général avec les musulmans et les non-musulmans. Justice avec l'homme, justice avec les animaux, et justice dans les paroles et dans les actes. Ô vous qui avez foi, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. Celui qui arrive à se contenir et à être juste même pendant la colère est le véritable homme fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas forcément le vainqueur, mais le fort c'est celui qui contient son âme lors de la colère. » Les califes pieux ont été de grands modèles dans ce domaine. Un homme est venu auprès du calife Omar ibn Khattab. Cet homme était un soldat et prenait son salaire des caisses de l'État. Mais durant la période pré-islamique, il avait tué le frère de Omar. Quand Omar le vit, son visage changea et lui dit « Ô toi, je ne t'apprécie pas et je ne t'aimerai pas jusqu'à ce que la terre aime le sang. » Il lui dit cette parole parce que la terre n'aime pas le sang. Quand on verse du sang sur la terre ne l'absorbe pas comme elle absorbe l'eau ou un autre élément liquide. L'homme répondit « Est-ce que cela t'empêchera de me donner ce à quoi j'ai droit ?» Omar dit « Non, jamais. Cela ne peut m'empêcher de te donner ton droit et cela ne me poussera pas à être injuste envers toi. » L'homme dit « Ta colère ne m'est donc pas nuisible. » L'homme connaissait l'équité de Omar et son ascétisme et il savait que malgré la colère qu'il entretenait à son encontre, cela n'empêcherait pas de demander son dû et de l'avoir. Les prédécesseurs pieux étaient très attachés à la justice et l'équité. Un prédécesseur pieux, Mu'alliq al-Ujali, disait « À chaque fois que j'ai entrepris quelque chose pendant la colère, je l'ai regretté pendant la satisfaction. » Également, Atta ibn Rabah disait « Rien ne fait autant pleurer les savants qu'une colère à la fin de la vie, qui détruit une vie de 50, 60, 70 années. Peut-être qu'une colère fait entrer la colérique dans une situation qu'il ne peut plus s'en sortir. » D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'un homme est venu lui demander une recommandation en disant « Donne-moi un conseil, ô messager d'Allah. » Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ne te mets jamais en colère. Et à chaque fois que l'homme réitérait sa demande, il lui disait sallallahu alayhi wa sallam, ne te mets jamais en colère. La colère rassemble en réalité tout le mal. Ja'far ibn Muhammad disait, la colère est la clé de tout mal. D'ailleurs, on demanda un jour à Abdullah ibn Mubarak, rassemble-nous le bon comportement. Il dit, l'abandon de la colère, car la colère fait partie des comportements les plus mauvais. La colère fait sortir l'individu de son état humain vers un état animal. Elle le pousse à avoir la mauvaise réaction, comme l'insolence, la violence, la malédiction, l'agression, l'injustice ou encore le divorce. L'économie. La deuxième chose qui sauve est l'économie dans la pauvreté et la richesse. Cela fait partie des critères des serviteurs du tout miséricordieux. Allah lorsqu'il cite leurs caractéristiques, dit « Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne dilapident point et ne sont point avares et ils sont justes entre les deux. » La justice dans la pauvreté et la richesse, le juste milieu. Ils ne sont ni de grands dilapideurs ni de grands avares. Le meilleur des êtres humains que l'on peut prendre comme exemple dans ce domaine est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a invoqué Allah qu'il fasse de ses subsistances un moyen de vivre suffisant. Il est rapporté dans l'authentique de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Oh mon Seigneur, fasse que les subsistances de la famille de Mohammed soient leur moyen de vivre. » Dans une autre version, « Oh mon Seigneur, fasse que les subsistances de la famille de Mohammed soient leur moyen suffisant de vivre. » C'est-à-dire que ce ne soit ni trop ni pas assez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était économe et équilibré dans ses subsistances. Celui qui est économe dans sa façon de vivre, dans ses habits et dans tous les domaines de sa vie aura le succès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il a le succès celui qui s'est soumis à Allah et qu'il en a subsistance ce qui lui est suffisant et qu'Allah le rassasie de ce qu'il lui a donné. » Dans un autre hadith, « Celui qui se réveille en étant en sécurité auprès des siens, en ayant un corps sain et qui a de quoi se nourrir pour la journée, c'est comme si on lui avait donné la vie tout entière. » Celui qui est ainsi, c'est celui que les gens peuvent jalouser. Malik ibn Dinar disait, « Je suis désireux d'être comme l'individu qui a une vie suffisante et qui en est satisfait et rassasié. Prends de la subsistance ce qui est suffisant et de la vie ce qui est sain. Tout cela prendra fin comme une bougie qui s'éteint. » La crainte. La troisième chose qui peut sauver, c'est la crainte d'Allah en secret en public. Évidemment, la crainte d'Allah en secret est plus méritoire que la crainte d'Allah en public. En effet, la crainte d'Allah en public peut être atteinte de tentation. Les gens de science appellent le degré de la crainte d'Allah le degré de l'observation. Celui qui craint Allah en secret et en public est quelqu'un qui sait vivre en ayant conscience à chaque instant qu'Allah le voit et l'observe. La crainte d'Allah en secret et en public empêche l'individu de commettre tout interdit et le pousse à pratiquer le bien. Celui qui craint Allah en secret, c'est celui qui le craint en public. Allah a complimenté ceux qui sont dans cette situation en disant « Ceux qui craignent leur Seigneur dans l'invisible et redoutent l'heure de la fin du monde. » La crainte d'Allah en secret et en public, c'est la recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à Mu'ad ibn Jabal en disant « Crains Allah là où tu te trouves, c'est-à-dire crains Allah en tout endroit, en secret et en public. » Celui qui craint Allah en secret et en public, Allah l'honore en le mettant sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre sauf celle d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith des sept gardés sous l'ombre d'Allah. Et un homme qui se rappellera d'Allah seul et ses yeux déborderont de larmes. Est un homme qui a fait une aumône avec sa droite sans que sa gauche ne sache que sa droite a donné. Est un homme qui a été séduit par une femme belle et riche et il lui dit « Je crains Allah ». Tout cela nous montre l'importance de craindre Allah en secret et en public. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le croyant voit ses péchés comme s'il était assis au pied d'une montagne en ayant peur qu'elle ne s'écroule sur lui. Et le pervers voit ses péchés comme un moustique qui ne passerait à côté de son nez et ferait un geste brusque pour le faire partir. Ce qui contribue à avoir la crainte d'Allah en secret et en public, c'est que l'individu prenne conscience qu'Allah le voit. Ibn Rajab disait « Celui qui sait qu'Allah le voit là où il se trouve et qu'il voit ce qu'il montre et ce qu'il cache, ce qu'il fait en secret et ce qu'il fait ouvertement. Qu'il prenne conscience et s'en rappelle pendant qu'il est seul, car cela l'obligera à abandonner les péchés en secret. » L'imam Shafi'i disait « Parmi les choses les plus chères, il y en a trois. La générosité en possédant peu, craindre Allah en étant seul, et une parole de vérité chez qui on espère une récompense ou de qui on craint une sanction. » Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha ant astaghfiruka wa atubu ilayk. N'hésitez pas à partager et à nous suivre sur notre chaîne YouTube Mosquée Tawhid Aluin ou encore à vous connecter sur le site de la mosquée www.mosquée-aluin.fr pour retrouver tous les audios et cours de la mosquée. الحمد لله رب العالمين.